ajuda!
Franchement, le Real Madrid sort d'un bourbier du côté de Mestalla, 2 buts partout. C'est ce qu'on aurait pu se dire quand on voit le score et la physionomie de la rencontre. Mais comme vous savez, on a vécu un samedi soir très mouvementé, pour ne pas dire scandaleux, pour ne pas dire honteux, pour le football espagnol, pour l'arbitrage en Espagne et pour les amoureux du football. C'est dommage de voir ça, même si le Real Madrid, comme l'a dit Carlo Ancelotti, a passé une bonne nuit en tête du championnat et accentue son écart sur Gérone qui s'est incliné ce week-end à Majorque. Donc l'un dans l'autre, ça peut aller. On est obligé de revenir sur tout ce qui s'est passé donc samedi et les jours d'après, en vue bien évidemment de la Ligue des Champions. Le match retour contre Leipzig, le 8e de finale retour au Santiago Bernabéu. Mais voilà, donc avec l'équipe habituelle que vous connaissez, Johan, Pablo et Hichem, on est là pour débriefer tout ça. Messieurs, salut à tous.
Salut tout le monde.
Bonjour à tous. Salut bien, ça va.
Faut pas que ça s'appelle Merlin.
Ah. Non, c'est terrible. J'allais dire, vous avez dit ça, je sais pas si ça va. Non, ça a les moyens, pour moi, de mon côté. Parce que en fait c'est comme si on te prive de quelque chose. En fait quand tu ressens le football, tu sens qu'il y a des matchs comme ça où tu sais que tu vas t'imposer malgré les difficultés. Ouais. Et quand justement donc ça se concrétise, et ben du coup tu te sens volé, spolié. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais avant qu'il se passe ce qui s'est passé à la 99e minute, il y a eu 98 minutes de football au Mestalla, dans un contexte difficile. Je ne sais pas qui veut commencer, mais c'est vrai qu'on redoutait ce déplacement. On n'a plus tort.
À juste titre.
Ouais, pas
à juste titre, on a redouté ce déplacement. Le Real Madrid a montré un visage, à mon sens, pathétique en première mi-temps. Ils se sont fait complètement avoir par la pression du stade, par l'intensité mise par les joueurs de Valence. Encore, c'était pas non plus un truc de ouf, mais voilà, on veut nous faire croire qu'ils ont bien joué parce qu'ils ont eu la possession du ballon, mais c'était une possession stérile au final parce qu'il n'y a pas eu d'occasion créée ni quoi que ce soit. Et Valence marque sur une erreur à la relance de Valverde. Après, c'est une erreur à la relance, mais bon, tu te dis, bon, allez, à la rigueur, parce que bon, après, le centre, au deuxième poteau, l'attaquant joue bien le coup, il la remet bien sur Hugo Duro qui la met au fond.
Je sais même pas bon, si c'est fait exprès.
Si, la remise, je pense que c'est fait exprès. Si, c'est fait exprès, je pense. Moi, je pense que si. Par contre, là où il est chanceux, c'est Hugo Duro, sa remise, parce qu'elle est très dure à remettre, et finalement, il arrive à bien la remettre, à bien la redresser, et il l'envoie dans les cages. Et après, par contre, moi, là où je suis vraiment vénère, c'est contre Dani Carvajal, parce que tu peux pas. À 31 ans, faire ça, capitaine du Real Madrid, tout ce que tu veux, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire une relance dans la, enfin, une passe en retrait, bourbier comme ça à ton gardien, alors que
justement,
tu mets même pas de force dans ta passe au final.
Justement, moi, c'est là où j'ai envie de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet sur cette première mi-temps. Moi, je pense que même les deux buts, ils sont pour Toni Kroos.
Oh. Oui, aussi, ouais.
Ils sont pour Toni Kroos, justement, parce que moi, je sais pas, Hichem qui est surpris, mais quand on regarde bien le film de ses actions, on voit Toni Kroos, déjà, qui a la perte de balle pour le premier but, avant que, justement, donc, il y ait Vinicius qui soit à la lutte avec Fulquier, et sur le deuxième but, l'absence de solution qu'il ne propose pas, parce qu'en fait, il ne se sort pas vite de sa zone pour être disponible, ben fait que Dani Carvalho fait cette passe d'amateur. Donc quand on voit ce qu'il a fait pendant 55-60 minutes, Toni Kroos, je me suis dit non mais c'est pas possible de jouer comme ça et de jouer comme ça alors qu'il nous a montré une forme qui était éblouissante au cours de j'allais dire de ces derniers mois. T'en penses quoi, Hichem? Dis-moi.
Je le voyais pas comme ça, donc là je suis en train d'essayer de revoir les deux buts. Sur le premier, je vois pas en quoi il est. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est
fort de l'action. Parce qu'il se cache, on va dire.
Bien sûr.
C'est ça qu'il veut dire, c'est qu'il se cache d'être là pour.
Et c'est pas la première fois, hein. Depuis le début de la saison, là, avec Pablo, on capte beaucoup de Kroos dans.
Oui, c'était. Des fois, il y a trop de nonchalance dans Toni Kroos. C'est vrai qu'il nous avait déshabitué à ça avec ses récentes performances, mais là, je vous avoue que les gars, je suis pas convaincu que ce soit lui. Pour moi, vraiment, les deux buts de Valence, ouais, il y a des erreurs de relance, de concentration de la part des Madrilènes. Mais ensuite, j'ai envie d'attribuer ça à Valence, c'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de réussite aussi sur les deux buts. Voilà, Carvajal qui fait une passe pas concentrée et donc finalement ça finit dans les mauvais pieds. Voilà. Et puis sur le premier but, pour moi c'est pas Toni Kroos, mais bon, ok.
Non, mais en fait c'est dans le, j'allais dire dans la responsabilité directe.
Ouais. Ce que tu veux dire, Gilles, c'est que il propose pas de solution à Carvajal axe. Alors que ça, et donc Carvajal obligé de jouer en retrait pour son gardien pour que son gardien relance de derrière et que du coup ça crée la baveur parce que ça Toni Kroos de faire le de demander justement de proposer une solution de comment dire de d'ouvrir un espace
de faciliter latéral, le choix de passe en fait
de passe à son latéral. Oui, sur ça je suis d'accord et du coup il se cache, c'est ça qu'il peut dire en fait.
Je vois, je suis en train de revoir là.
Ouais. Et justement, c'est dans cette optique-là que, en fait, quand on connaît, on va dire, le Mestalla qu'on a connu, Johan, dans les années 2000 et qui, on va dire, nous menait la vie dure, même si quand on allait là-bas à des moments, ça se passait plutôt bien, demande à Ronaldo. On a l'impression qu'on devait vivre, on va dire, une séquence où ça allait être très difficile pour le Real Madrid de s'en sortir. Et pourtant, moi, j'étais persuadé qu'on allait gagner cette rencontre.
Pareil.
C'est quoi ton sentiment?
Pareil.
Pareil, les gars.
Moi, personnellement, je me suis dit qu'on allait sûrement revenir au score. Après, gagner, je ne sais pas. Mais qu'on allait revenir au score, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Valence, c'est une équipe qui est... C'est même un club qui est en totale reconstruction. Hein. Quand vous regardez la plupart des joueurs qu'il y a dans cette équipe, c'est vraiment des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Quand on voit les Javi Guerra, tous ces mecs-là, là, c'est des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir jouer en Liga. Donc honnêtement, moi, je me suis dit avec la qualité de nos joueurs qu'on allait forcément revenir au score. Après, pour être franc avec vous, moi, je trouve qu'il y a eu l'intensité. J'ai bien aimé l'intensité qu'il y a eu. Moi, j'aime bien justement les matchs où voilà, ça se rentre dedans aussi, au-delà du fait que techniquement ce soit bon, il faut que ce soit un minimum bon techniquement. Et je pense que Valence a deux buts parce qu'on réalise deux grosses erreurs, je pense, d'une équipe qui joue le maintien, quoi. Et donc ça a été assez regrettable pour ma part à ce niveau-là. Mais non, moi aussi j'étais assez serein du fait qu'on puisse revenir parce que je pense que mentalement on a une équipe qui est très très forte et il y a cette haine justement de la défaite et cette culture de la gagne qu'ont les joueurs et ce qui fait aussi qu'on a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison et c'était au mois de septembre. Donc non, moi j'avais aucun doute à ce niveau-là. Maintenant on aurait pu gagner, on le sait très bien pourquoi on n'a pas gagné. Mais voilà, non, j'avais vraiment aucun doute sur le fait qu'on puisse venir sur ce match.
Après, on aurait pu gagner, mais je pense qu'on aurait pu aussi se mettre dans des meilleures conditions beaucoup plus rapidement, en fait. Et c'est ce qui m'a saoulé, c'est parce que, comme tu l'as dit, on a mal débuté, on a laissé Valence prendre l'avantage, doubler la mise et faire le break.
On s'est mis tout seul dans la sauce.
Tout seul dans la sauce, voilà. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que Real Madrid doit remonter. Et je vais te dire un autre truc, c'est que. Si Vinicius Junior, si on n'a pas, parce qu'on a eu de la chance sur le 2-1 pour moi, c'est le ballon qui est dévié par le défenseur, le latéral gauche ou le milieu gauche de Valence, sur le centre de Valverde, ça passe entre les jambes de Rodrigo, ça passe à côté du gardien et c'est Vinicius qui la pousse au fond. S'il n'y a pas ce but, avant ça, Vinicius, il sort totalement de son match, que ce soit entre les insultes, entre les fautes qu'il reçoit, il fait que aller voir l'arbitre, il n'est pas concentré. Et heureusement qu'il marque ce but parce que ça le recentre. Parce que s'il ne marque pas ce but, je peux vous dire que la deuxième mi-temps est catastrophique. Ouais. À part si vraiment.
Ouais.
Mais c'est, moi, c'est ma vision du truc. Et heureusement qu'il y a le 2-1, parce qu'à partir du moment où il y a le 2-1, effectivement, là, tu te dis, bon, tu vois la deuxième mi-temps, tu te dis, la tendance, elle a inversé. Là, tu sens que le Real va gagner, en fait. Tu le sens.
Mais justement, Pablo, le fait que Vinicius, lui, joue dans un contexte qui est déjà hostile, notamment avant la rencontre. Moi j'ai vu des pancartes qui étaient prévues justement pour réaccueillir Vinicius par rapport au match houleux de la saison passée, qui justement donc nous avait valu, on va dire, beaucoup de colère vis-à-vis aussi de certains de nos joueurs du Real de l'époque qui n'ont pas été forcément à la hauteur de, j'allais dire, de leur statut pour défendre leur coéquipier. Il y a eu le contexte du Netflix, justement, donc où Valence ne veut pas ouvrir les portes du Mestalla par rapport à ce documentaire qui serait fait sur Vinicius. Valence qui attendait de pied ferme le Brésilien. Il y a 2-0. Il y a 2-0. Vinicius perd son duel contre Foulquier. Oh, il y a des choses. Non, il y a des choses. Voilà,
c'est vrai. Ouais, c'est vrai,
oui, bien sûr.
Il perd son duel contre. Et d'ailleurs.
Ouais, mais c'est terrible.
C'est complètement. Mais il sort de son match. Il sort de son match. Parce que...
Et justement, là, en fait, là, le match est plus mental du côté de Vinicius que sur ses capacités physiques. Et le fait qu'il se remette dans le tempo de la rencontre et qu'il profite d'une simple erreur de la défense, je crois, la seule erreur de la première mi-temps de leur part.
La seule frappe du Real Madrid, c'est la frappe de Valverde à la 40e minute. C'est la première frappe du match.
La première frappe à la 40e, ouais.
En tout cas, première frappe cadrée. Mm-hmm. Et après, c'est le but de Vinicius, et du coup, c'est une erreur de la défense de Valence.
Après, comme tu dis, Gilles, je pense que Vinicius, il était dans. Il s'est, en fait, il, tout seul, il s'est mis une pression, peut-être, sur ce match-là. Oui. Vu comment s'était passé la saison dernière, voilà, toute cette histoire au Mestalla qui a fait beaucoup de bruit. À mon avis, le gars, il s'est mis tout seul la pression à s'entêter peut-être à vouloir démontrer quelque chose et du coup à vouloir forcer la chose et que ça vienne pas naturellement. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux à ce niveau. Mais même, je trouve que depuis 2-3 matchs, Vinicius, il est un peu en dessous de sa forme, de sa meilleure forme, en tout cas. Donc il est dans cette continuité. Wow. Même si Marc.
Moi j'ai juste une question. Est-ce que on a le droit de le critiquer ou pas?
Comment?
Désolé, je pense que je t'ai coupé ouais, parce que ton micro l'avait coupé.
Vas-y, non, vas-y, 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 Pablo, vas-y, Pablo, vas-y.
Non, moi, ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'en tant que journaliste qui suit le Real ou en tant que supporter du Real ou quoi, est-ce qu'on a le droit de critiquer Vinicius Junior? Parce que moi j'ai l'impression qu'il est intouchable. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il est intouchable en fait. Et ça me saoule parce que justement il est victime de racisme. Non, sauf mais... que, en tant que supporter du Real, tu peux aussi dire, garçon, tu sors beaucoup trop de fois de ton match.
T'es pas assez. Mais ça, on l'a dit la saison dernière, Pablo.
Voilà. Ah, bah. Ouais. Après, quand je dis ça, on dit, ouais, mais parce que il subit des discriminations. Je suis d'accord, il n'y a pas de galère sur ça. Moi, je suis contre ça et on est tous avec lui. Mais malgré tout, en fait, à partir du moment où toi, t'es un joueur de foot ou tu travailles dans telle entreprise ou quoi, tu sais que tu vas subir des pressions. C'est le contexte dans lequel tu travailles, tu te dis, bah vas-y, c'est mon contexte, je fais abstraction et je travaille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu la réponse.
Après, c'est un truc qui peut venir progressivement, parce que typiquement par rapport à la saison dernière, t'as beaucoup moins de. Le gars est un peu plus concentré quand même sur le terrain. Je joue un peu l'avocat du diable, mais je te suis à 100% hein, sur le coup. Mais par rapport à l'année dernière, Vinicius, il s'améliore quand même, malgré tout.
Il y a quand même c'est vrai qu'il y a quand même une petite amélioration par rapport à.
C'est sûr que c'est pas parfait, mais je pense que ça viendra progressivement. Même il en a conscience. Hein.
Oui, Johan, vas-y.
Mais moi, comme je le disais, même la saison dernière, je disais que Vinicius, j'ai l'impression qu'il est en train de. J'avais l'impression qu'il était en train de se prendre pour un autre joueur, en fait. Tu vois,
ouais, c'est ça.
Se prendre pour un autre joueur, tout le temps dans la volonté, tu vois, de réclamer, de réclamer une faute, etc., sortir de son match, etc., toujours parler avec l'arbitre, toujours vouloir entrer dans un bif avec un joueur, etc. Et ouais, moi aussi, j'ai l'impression que cette saison, c'est surtout depuis, allez, Même au début de saison, je trouvais qu'au début de saison, il était encore dans cet état d'esprit-là, mais je trouve que ces ouais, derniers matchs, il y a moins justement cet état d'esprit-là, et moi je pense que c'est là où on verra le meilleur Vinicius, s'il reste vraiment concentré pendant 90 minutes sur ce qu'il doit faire. Après, bien sûr, il y a ce jeu d'intimidation auquel il fera face à des adversaires, ça c'est clair et net, mais il faut qu'il reste surtout, déjà, il ne faut pas qu'il se laisse faire dans un premier temps, mais qu'il ne rentre pas justement dans cette... qu'il ne soit pas une caricature de Mathieu Valbuena en fait. Concrètement, c'est ça. Faut pas du tout qu'il rentre dans ça. Parce qu'en fait, moi, ça me faisait vraiment penser à Mathieu Valbuena à ce niveau-là, tu vois. Et en un peu plus
dans,
chiant.
Dans l'ultra-victimisation.
Exactement. Ça me dérangeait un petit peu. Mais voilà, moi, j'ai confiance. Je sais qu'il va corriger justement ces défauts-là. Il a le coach, justement, qui peut lui faire corriger ses défauts. Et bien évidemment, il y a ses coéquipiers, notamment les plus expérimentés, qui pourront veiller à ce qu'il reste le joueur qu'il est en train de devenir. Et j'espère qu'il sera encore un plus grand joueur qu'il l'est aujourd'hui.
Moi, pour reprendre un peu ce que tu as dit au début, j'ai l'impression que son comportement, il a changé à partir du moment où il a marqué son but à Saint-Denis, en fait. Il a pris la grosse tête à ce moment-là.
Possible.
À Saint-Denis? Ça
remonte au Stade de France.
La finale de la Champions League.
L'année dernière, Vini, il était encore en train de polémique. Hein.
Son caractère a changé. Enfin, vraiment, son comportement a changé à partir du moment où il a marqué son but à Saint-Denis. Il a pris la grosse tête. Et l'année dernière.
Dans ce sens, ok.
Ouais. Mais c'est vrai que dans cette logique-là, ce que l'on peut se dire aussi. Je vois un Vinicius qui répond aux attentes aujourd'hui sur cette rencontre dans un contexte hostile qui a toujours été parce que ça n'a pas trop évolué au Mestalla, raciste aussi. On a pu voir donc les différentes polémiques qu'il y a pu avoir donc autour du terrain. Donc c'est-à-dire le racisme peut se célébrer en famille, j'ai l'impression. Donc
la daronne a dit rien du
tout. Ouais, voilà. Donc
j'ai honte de ce pays parfois.
C'est terrible. Et pourtant c'est Vinicius Junior qui met le doublé. Donc c'est-à-dire que même dans un match où tu te dis c'est peut-être là où ça va être pour lui le match émotionnellement le plus dur de la saison, que le type arrive à sortir un doublé. Et fait de Valence, on va dire maintenant, on va dire son équipe préférée, puisque je crois que c'est contre cette équipe-là qu'il a marqué le plus de buts dans sa carrière en Liga, toutes les équipes confondues. Ça montre quand même que il monte en gamme. Est-ce que c'est le numéro 7? Est-ce que c'est le nouveau statut qu'il est en train de prendre justement au Real Madrid? Mais ça montre beaucoup de choses, parce que là j'ai envie de déduire que le joueur qu'il fallait critiquer aussi au Mestalla, et qu'on a commencé déjà à critiquer la semaine dernière Hichem, c'est notre ami Rodrigo, qui plus le temps avance,
porté disparu,
qui n'apporte absolument rien offensivement, et qui aujourd'hui
rien Hichem, rien.
après je... Faisons l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'est pas utilisé au mauvais endroit?
Mais
moi, j'y crois plus à ça, tu vois.
Même ça.
L'année dernière, il réclamait de jouer en neuf, ou en faux neuf, ou dans une position beaucoup plus axiale. Là, t'as tout ce que tu veux, Rodrigo, et malgré tout.
Non, mais il doit jouer à gauche, ce mec-là. Il joue normalement, c'est un
élément. Ça se voit, il est beaucoup plus à l'aise à gauche, et d'ailleurs. Ouais, quand t'es footballeur, même de haut niveau, manifestement, le fait que même tu sois décalé sur la droite, ça te perturbe quand on regarde le cas Rodrigo. Mais non, il est juste pas bon en ce moment. On demande plus de choses de lui, et il les fournit pas jusqu'à présent. Et pourtant, c'est pas les opportunités qui manquent. Donc maintenant, Ancelotti, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer Rossellou, qui mérite largement son temps de jeu, quand tu vois les piètres performances actuelles de Rodrigo. Après, il faut toujours croire en lui, parce qu'il a déjà montré des choses incroyables, mais en ce moment, il n'est vraiment pas dans un bon mood. Est-ce que c'est pas aussi les rumeurs qu'il entend de Mbappé qui... Non, mais c'est vrai, qui arrive.
Non,
non,
quand
mais
même.
après, moi, effectivement,
J'ose espérer que non, quand même, Michel.
Non, mais moi,
non, mais c'est possible. C'est possible. Le
non,
gars, il
moi,
se dit.
Non, moi, je pense
ah,
pas.
les gars, vu comment
moi,
il est perturbé par un positionnement,
moi, je suis d'accord
c'est
avec toi,
une
avec
rumeur qui dit qu'il va venir, etc. À mon avis, peut-être qu'il a les chocottes, hein, tout simplement.
Moi, je suis complètement d'accord avec Hichem.
Hein?
Pour
bon,
quelle
en tout cas,
raison,
ce que je vois,
Johan?
C'est qu'effectivement, Carlo Ancelotti, il fait rentrer Rossellou, il fait rentrer Brahim, et il attend surtout qu'il y a Mbappé.
Ouais, moi je pense que moi je suis complètement d'accord avec Hichem. Je pense que l'ombre l'ombre du numéro
Ouais,
7
c'est
du
possible.
PSG, du capitaine de l'équipe de France plane au-dessus de lui.
Mais pourquoi lui, pas en
Ah,
particulier?
non, plus sérieusement, je déconne, mais voilà, moi personnellement, comme j'ai dit, Rodrigo, même si je le remercie pour notamment cette demi-finale face à Manchester City, je le remercie pour le nombre de fois où vraiment moi-même je disais qu'il avait des allures en fait dans ses prises de balles, dans ses conduites de balles de Ronaldo Fenomeno. Mais je pense que depuis qu'il est arrivé, vous savez très bien moi l'opinion que j'ai de lui. Depuis qu'il est arrivé, moi personnellement, j'ai jamais eu l'impression qu'il allait devenir un joueur extraordinaire. J'espère me tromper, mais pour moi, il n'a clairement pas le niveau d'un titulaire. Ça, c'est clair et net. Et je pense que il faut un attaquant qui apporte plus de garanties au Real Madrid la saison prochaine à ce niveau-là. J'espère qu'on l'aura. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais clairement, Rodrigo, pour moi, il doit passer en second choix la saison prochaine si un grand attaquant arrive l'année prochaine.
Mais faut, malgré tout, faut pas l'enterrer, je
Non,
pense.
mais
Faut pas
dans...
l'enterrer, attention,
bien
non, faut
sûr,
pas l'enterrer. Et
attention.
dans tous les cas, c'est un joueur du Real Madrid, il faudra qu'on le supporte jusqu'au bout. Ça, c'est clair et net à ce niveau-là. Mais voilà, maintenant, on est en droit de se poser des questions sur, voilà, sur le rôle qu'il va obtenir, qu'il va assurer justement lors de ces prochains mois, voire de ces prochaines années.
Non, mais justement, regarde, quand on voit par exemple l'entrée de Brahim Diaz à la 63e minute à la place de Rodrigo, parce qu'en fait, les premiers changements, je me dis ça, je me dis que si Ancelotti ne sort pas Kroos et Rodrigo, c'est qu'il n'a rien compris au sens de la rencontre. Et Dieu merci, c'est un très grand entraîneur. Il comprend que ce sont ces deux joueurs-là qu'il faut sortir.
Qui pose problème.
Et bizarrement, il rentre, il se passe autre chose aussi. Donc Brahim Diaz qui est passeur et qui aurait pu être double passeur. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais on voit qu'il apporte autre chose dans cette rencontre et des choses qu'on a l'impression que Rodrigo, s'il n'est pas décisif, on a l'impression qu'il n'apporte pas grand-chose. Moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est que je me dis que est-ce que Rodrigo est obnubilé par le fait de marquer des buts, alors qu'il peut participer par d'autres moyens, comme le fait Brahim, à donner de l'air au jeu, de donner de la respiration à la rencontre. Parce
Mais est-ce que
que
c'est son réel profil aussi, Gilles?
moi,
C'est
je,
ça,
moi
c'est
je
le problème.
pense, mais c'est ça le truc, c'est ce que je disais au début. Pour
C'est un
moi,
genre d'acte, Rodrigo.
bah lui, il a été formé à gauche, Johan, tu vois, il était formé ailier gauche à la base,
Voilà.
droitier ailier gauche,
Se voit
pas du tout dans le
d'ailleurs.
même style que Vinicius, il mange la ligne, lui, c'est plus voilà, repiquer dans l'axe, tu vois, un peu la Cristiano. Moi, je pense il a un défaut qu'on cite pas assez, c'est son caractère. Je pense qu'il manque
Mais
de,
timide.
ouais, voilà, et ça se ressent de ouf. En fait, ça se ressent. Chose
Bon.
que chez Vinicius, tu vois pas.
Mais
Bah, c'est
moi, c'est ce que
l'hypatie.
je. Mais moi, j'allais
Après,
taper Rodrigo.
Vinicius.
Mais moi, Pablo, moi, c'est ce que je. Moi, c'est ce que je reprochais, en fait, à Rodrigo quand il jouait sur le côté droit.
Ah,
C'est qu'il n'osait pas assez, en fait.
ah,
Il
comme.
n'osait pas assez. Comment dire? Il ne tentait pas de. Voilà, justement, de provoquer. Il n'était pas assez provocateur vis-à-vis de la défense, etc. Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un problème qu'en fait qu'on retrouve aujourd'hui à ce niveau-là. Et ouais, c'est regrettable. Parce que moi, j'aimerais bien aussi que, voilà, au vu de tout ce qu'il a fait déjà dans cette génération au Real Madrid, j'aimerais bien justement qu'il monte en grade et qu'il devienne justement une force supplémentaire justement
Moi,
pour l'équipe. Ça serait bien.
je pense
Mais
que.
j'ai comme l'impression que la saison prochaine sera synonyme de banc pour lui, je pense.
Moi, le truc, mais c'est là où j'en viens, c'est que l'année prochaine, avec Kylian Mbappé, je pense que si lui, il joue dans une composition 4-3-3 où il est droit avec Mbappé en pointe et Vinicius à gauche, je pense qu'il sera beaucoup plus libre, que les défenses seront moins sur lui et que peut-être qu'à ce moment-là, on le verra faire plus de sale, entre guillemets.
Moi,
Tu
personnellement,
vois? Parce que.
moi, je ne mettrais pas à droite, Rodrigo. Pour moi,
Non, mais
c'est pas
après,
à droite.
en fait, ouais,
Il n'a
mais
pas le
après,
choix.
ouais.
Ouais,
Ouais,
c'est
c'est ça
vrai,
le
c'est
truc, c'est
vrai.
qu'il n'y a pas le choix, en fait.
Je préfère même
Et
qu'on
je
mette
pense
pas
que.
le gardien à droite ou bien Brahim Diaz. Hein.
Ils joueront aussi à droite. Ils joueront aussi à droite. Mais il y aura des matchs où il y aura Rodrigo à droite, ça c'est sûr, tu vois. Rodrigo, il va pas jouer tous les matchs, il va pas débuter tous les matchs sur le banc, tu comprends?
Mais est-ce que,
Donc il y aura des matchs où il jouera.
Mais moi, j'ai comme l'impression que l'année prochaine, on part plus sur un 4-4-2, hein, plutôt qu'un.
Oui, moi aussi, je pense qu'on peut partir sur un 4-4-2 de losange, mais après, il y aura des matchs où ça jouera en 4-3-3 quand même. En fait, ça dépend de l'adversaire
mais,
aussi.
Mais même cette saison, j'ai même l'impression qu'on part même plus sur un 4-4-2 de losange, hein, cette saison-là. Là, en ce moment.
Moi, je te cache pas que parfois, j'ai
l'impression. Des fois, tu vois même Dani Carvajal qui est à l'entrée de la surface, etc.
Ouais, qui rentre dans la surface, ouais, c'est vrai.
Et c'est ça qui est intéressant parce que je trouve qu'on est une équipe qui est assez imprévisible, justement, quand on attaque. Et c'est ça qui est intéressant.
Et versatile.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. On peut voir, par exemple, Bellingham, bah, qui peut être à la finition, comme malheureusement, ça n'a pas été, ça a été le cas, mais malheureusement. Quelqu'un en a décidé autrement. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Moi, je pense que c'est Carlo Ancelotti. Bon, là c'est un autre chapitre, hein, qu'on est en train d'ouvrir, qu'on va refermer assez rapidement. Mais je pense que Carlo Ancelotti, l'année prochaine, devrait continuer à miser sur un 4-4-2. Je pense que ça peut mettre tous les joueurs offensifs dans les meilleures conditions à ce niveau-là.
S'ils font les efforts les uns pour les autres. Et ça, je pense que
c'est quelque chose auquel on devrait être intraitable si le capitaine du PSG.
Non, mais pour chacun des joueurs qui sont présents. C'est pour ça que si on est en train de critiquer, on va dire, un joueur comme Rodrigo, là qu'on a critiqué Kroos, et aussi Carvajal qui, justement, donc, est passé à travers de la rencontre. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, effectivement, voilà, donc si on fait match nul contre Valence, c'est parce que on n'a pas forcément été bon. Je voulais revenir aussi sur quelque chose avant de parler de ce qui s'est passé à 99e minute. C'est le match de Jude Bellingham. Match de Jude Bellingham, je ne sais pas pourquoi, il est très paradoxal. Parce que moi, je ne vois pas, par exemple, quand je regarde les notes qui ont été données par Guillaume Pomade sur le site du journal du Real, où il lui donne 7 sur 10, je pense que c'est beaucoup.
C'est même trop.
C'est très, très, très généreux de sa part.
Très généreux, justement, par rapport à. Moi, je vois les choix, les prises de balles qu'il a pu avoir, où justement, ouais, donc, il n'était pas dans le mood de ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, où c'était toujours le bon choix au bon moment. Ouais, il y avait peut-être un petit temps de retard, etc. Mais, et limite, à un moment donné, quand je regarde la première heure de jeu, je me dis, tiens, c'est bizarre. On regarde un match de Jude Bellingham et un match où il n'est pas bon. Et pourtant, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
20 minutes de jeu avant que je remarque la présence de Jude Bellingham, personnellement. J'exagère pas. C'est un match très moyen, je note de sa part. En plus, il n'y avait pas forcément un gros marquage sur lui, mais comme tu dis, Gilles, il y a eu toujours. Il n'était pas synchronisé avec les autres joueurs.
Voilà, c'est
le bon
mot. Il y
avait toujours ce temps de retard ou ce. Et donc bon, la deuxième mi-temps, quand l'équipe a ce sursaut d'orgueil, donc il contribue un peu, notamment sur l'action où il met un crochet et le défenseur, je sais plus quel défenseur s'est mangé ce crochet, mais s'il marque le but, c'est
ah non mais là c'est terminé, oui.
Ouais, mais mis à part ça, ouais, et c'est l'un des rares matchs, ouais, où on voit Jude Bellingham si peu mis en valeur dans cette équipe. Et d'ailleurs, l'attaque de façon générale, elle n'a pas été si bonne. On parlait de Rodrigo à l'instant. Bellingham, c'est la même chose. Et Vinicius, comme je le disais, à part les deux buts qu'il met, même dans le contenu, c'était pas non plus fantastique. Donc, voilà.
Moi, des trois attaquants, entre guillemets, parce qu'il n'est pas réellement attaquant, mais je trouve que ça a été le meilleur. Après, faut compter les buts de Vinicius qui compte à la fin du match. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà première mi-temps, je trouve que c'était celui qui, quand on l'a trouvé, parce qu'effectivement on l'a pas beaucoup trouvé, mais quand on l'a trouvé, il faisait quand même des bons gestes et des bonnes choses. J'ai trouvé. Après ça, qu'on l'a pas assez trouvé.
On l'a pas assez trouvé. Et moi, je pense aussi que à un moment donné, il y avait des actions, il y avait des moments où tu te dis, mais vas-y, tu tires. Et il tire pas, et tu vois, c'est l'une des rares fois où je me dis, mais merde, il va tirer quand? Et ça arrivait une ou deux fois. Et non, j'allais dire que je me dis que même si effectivement, donc il est monté au fur et à mesure en puissance de la rencontre, comme le reste de l'équipe, ou après dans les 20-25 dernières minutes, ben, on a vu très clairement que voilà quoi, le Real Madrid devait repartir avec les 3 points, même si ça a tardé et qu'il y a aussi des temps faibles et tout, etc., où Valence a pu respirer, notamment sur la fin de rencontre, où effectivement ils ont eu un penalty sifflé, alors qu'il n'y était absolument pas. Et aussi, qu'on a vu le jeune Peter qui est rentré, un ancien de la maison, et qui a aussi essayé d'apporter de la percussion pour mettre en difficulté Fran Garcia.
Ouais.
Fran Garcia qui est rentré dans le dernier quart d'heure pour pouvoir apporter davantage de centre. Et on ne l'a pas énormément vu dans ce registre-là aussi. Bon, pourquoi pas. Je pense que c'était peut-être le changement qui était peut-être le moins utile.
On est déjà au mois de mars. Là, je posais une vraie question. Il sert à quoi, Fran Garcia, les gars?
Ah, mais
Hichem... je suis méchant, hein, mais...
Non, c'est globalement, quand tu regardes sa saison, c'est sûr qu'il n'est pas au niveau attendu, en tout cas celui qu'on attend du Real Madrid. Après, sur le changement, je pense qu'à ce moment-là, Gilles, du match où il fallait alimenter des ballons dans la zone, Ferland Mendy qui a fait le match qu'il fallait, mais sur l'aspect défensif, il est là, mais offensivement, c'est un peu moins la régalade, on va dire. Et je pense qu'à ce moment-là, justement, Gilles, il fallait faire rentrer Fran Garcia pour essayer de dynamiser les choses et d'essayer de distribuer des ballons aériens dans la surface. T'avais pas trop le choix, t'as pas trop de solutions à ce moment du match.
Ah, mais paradoxalement, la différence est venue de l'autre côté.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça là qui a fait à dire polémique, mais paradoxal, et on va dire que les intentions étaient quasiment là pour ça.
Le joueur marocain
le nouvellement peut-être marocain Brahim Diaz qui fait l'excellent joueur donc là qui a choisi donc qui aurait choisi le Maroc, c'est pour l'instant du conditionnel, qui fait la différence à deux reprises, et on est obligé d'en parler. Il y a cette action. Bon, messieurs, je vous laisse.
Ouais, c'est sûr, voilà,
je vous laisse en parler. Mais,
non,
messieurs.
Non, vas-y. Mais en vrai, je comprends, parce que même moi, ça me fait chier d'en parler, parce que c'est tellement scandaleux en fait ce qui s'est passé que. Non, c'est en fait surtout quand tu vois que l'arbitre il s'apprête à siffler, il siffle pas au final, et au moment il siffle au moment où Brahim Diaz il centre, etc. Non, c'est relou. Franchement, c'est relou de voir des choses comme ça. C'est vraiment vraiment relou. Surtout qu'en fait normalement il doit prolonger le temps additionnel, parce qu'en fait pendant ce temps additionnel là il y a la vérification du penalty sur Hugo Doro, il y a aussi la blessure de Diakabi. Donc en vrai il y a facilement 2 ou 3 minutes. Allez, j'exagère en disant 3 minutes. On va dire facilement 2 minutes au-delà du temps additionnel requis à la base, qui doivent être accordés.
Et là, il a accordé 7 minutes et il l'a laissé jusqu'à 99.
Et là, franchement, non, il siffle au moment où Brahim Diaz y centre. Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens.
Surtout qu'il y a
mais pas c'est là où c'est intéressant, les gars, justement, dans cette analyse, c'est que tu vois que au final, l'arbitre, il est influencé aussi par autre chose que simplement les règles qu'il y a dans le football. C'est-à-dire que pourquoi il siffle à ce moment-là? Il sait très bien qu'il y a un danger qui va arriver et pourtant il le siffle. Là, ça montre qu'en fait, les arbitres, ils sont beaucoup plus. Enfin, il n'y a pas que les règles stricto sensus qui sont là pour régir en fait le rythme du match. Il y a autre chose, ils prennent en considération bien d'autres paramètres, et là, on le voit très clairement. Il attend que le ballon soit en l'air. Il se dit, ah punaise, j'ai laissé l'action de trop, il a centré, une fraction de seconde, ça va finir par un but. Ça finit par un but, tu vois.
C'est vrai ce que dit Hichem, parce qu'en fait, en tout cas, c'est ce qui est ressorti après, c'est qu'apparemment, il aurait dit, le corner, c'est la dernière. Et ouais, sauf que, il a dit ça, ouais, et du coup, il a pas sifflé au bon moment. Sauf qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu peux pas siffler à partir du moment où le ballon reste dans les pieds du Real. Et que c'est encore dans la surface de réparation, tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Et que si Valence avait touché le ballon, là, la rigueur, oui. Mais voilà, mais bon, apparemment, il aurait dit le corner, c'est la dernière, et du coup, c'est pour ça que oui, enfin, à mon avis, c'est ce qui explique son coup de sifflet, quoi. Bon, après, c'est un scandale, hein. Ça bouge pas. De toute façon, en fait, c'est tellement scandaleux qu'il n'y a rien à dire. Genre, c'est...
Ouais, en vrai, on est dépassé, en vrai, de vrai.
Il n'y a rien à ajouter. Enfin, c'est abusé.
Après
malgré... Gilles, ton avis?
Ouais, vas-y. Ouais.
Gilles, on t'entend, on t'écoute, là.
Ah, moi, je vous laisse parler sur cette partie-là.
Ah, parle.
Franchement, non. J'ai dit, je m'abstiens parce que si toutes les deux semaines on doit parler des arbitres,
non, alors mais donne ton avis, Gilles, là c'est le moment. Tu peux le dire.
Pablo, depuis le début de la saison, on le dit ici que les arbitres sont mauvais et qu'on doit composer avec eux tout au long d'un match. Dans tous les matchs de Liga, je dis même pas ça pour les matchs de Real Madrid, mais je dis dans tous les matchs de Liga et même dans tous les matchs de haut niveau aujourd'hui en Europe. Et ça pose problème aujourd'hui d'être dans cette situation parce qu'en fait, il tue ton instinct. Toi, tu sais que le Real Madrid, moi, par exemple, je sais que le Real Madrid devait gagner cette rencontre. Le Real Madrid était en mesure et en condition de pouvoir gagner cette rencontre. Il remporte cette rencontre logiquement sur l'action en question, mais d'un coup, pour une décision que même, on va dire l'organe central des arbitres en Espagne n'a pas compris, eh ben finalement il y a tu repars avec le match nul. Est-ce que c'est mérité ou pas mérité? C'est pas le problème. Quand on gagne à Séville dans les arrêts de jeu, on mérite pas de gagner cette rencontre. Loin s'en faut. Et pourtant, on la gagne en 2022. Je parle avec le triplé de Benzema. Donc, voilà, c'est, tu vois, il y a des matchs comme ça où tu sais que c'est difficile. Tu es dans une ambiance hostile, mais tu te dis, ah, c'est tellement la merde ici que tu dois gagner. Et quand ça arrive et qu'en fait, on t'enlève ce plaisir-là et ce regard-là, tu te dis, non, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Non, mais je pense que là, pour le coup, parce que le pire de tout ça, c'est que moi, je trouve que sur l'ensemble de la rencontre, il fait un bon match, à part le pénalty qui siffle sur Hugo Douro à la fin, qui, je pense, en cours de jeu, c'est compliqué de voir s'il y a faute ou pas, parce que même moi, en direct à la télé, je pensais que Nacho, il avait fait faute.
Mais
sur l'ensemble, il fait un bon match.
Non, hein, mais regarde le body language de Nacho et de, qu'on appelle, de Fran Garcia. En aucun cas, ils se posent la question de « il y a une faute ou pas ?» Et c'est même pas dans le sens où ils veulent dire « non, il n'y a pas faute ». C'est en fait, ils continuent leur action comme si de rien n'était, tu vois. Et le mec siffle penalty. Et là, on voit en plus avec, les images, c'est assez clair. Je me suis dit « il n'y a pas faute, on perd du temps encore ». Bon, après, tu vois…
Là, j'ai cru que Nacho avait fait faute, hein. Personnellement.
Ouais, avec l'effet d'optique, en fait.
L'effet d'optique, mais c'est vrai. On a vu que l'autre il rate le ballon et après c'est vrai que quand tu rates le ballon tu peux te faire mal, donc du coup je dis il simule pas, tu vois, mais bon c'est j'allais dire que il aurait pu abuser l'arbitre et là le Real Madrid aurait pu même se plaindre de quelque chose qui était même très grossier à ce moment-là, mais là sur une dernière action c'est tuer l'esprit du jeu, tuer le football en fait. Et si toutes les semaines on doit parler de ça, ou toutes les deux semaines, ou j'allais dire tous les deux, trois matchs, on doit parler de ces mecs-là, ça va faire chier.
Ça fait partie du folklore du football espagnol.
Comme mais, ça. Mais justement, Pablo, un bon arbitre, c'est quoi? C'est un bon arbitre, c'est un arbitre qui n'existe pas. Pourquoi ils veulent exister, ces bâtards?
Parce que c'est comme ça, c'est le foot espagnol, ça a toujours été comme ça. Moi carrément, en fait, ce qui s'est passé là ce week-end, je suis vacciné, moi, ça ne me fait plus rien. Je vous jure, ça ne me fait plus rien. En fait, je suis tellement en rogne contre eux depuis 20 ans que, une de plus, une de moins, c'est la même. Moi, je sais que déjà, pour gagner un championnat, va falloir battre l'adversaire et l'arbitre. C'est comme ça depuis 20 ans. Depuis que je regarde le foot, c'est comme ça. Donc.
Alors que la perception, soi-disant, donc de la part de gens qui s'estiment adversaires du Real Madrid.
Ah, mais ça, je ne même pas, en fait, parce qu'ils connaissent pas, ils voient même pas tous les matchs du Real Madrid. J'en suis certain. Ils regardent sûrement des ralentis, des images faussées, des trucs, des machins.
Attends, là, tu parles du club là qui est dans la sauce ou des supporters du club qui sont...
C'est pareil.
Tous ces mecs, voilà.
Non, mais pourquoi tu calcules eux aussi, Gilles? Tu leur donnes...
Non, j'ai dit tous ces mecs. Donc, du coup, je cite personne pour la... Mais il y a beaucoup...
Ils attendent que ça. Ils n'ont rien d'autre à
attendre. Il y a beaucoup trop de personnes qui justement donc parle. Moi j'ai reçu des messages. Oh, mais le Real Madrid qui se plaint de l'arbitrage. À un moment donné, faut arrêter les bêtises. J'allais dire, si on doit faire le, j'allais dire que Pablo, je pense qu'on trouvera ce temps-là pour faire ce séminaire.
C'est ce que j'allais dire. Je repropose ce séminaire. Donc, on loue une maison en Normandie. On part une semaine. On se refait toutes les cassettes vidéo du Barça entre 2004 et 2018. Et après, on voit qui est favorisé et qui n'est pas favorisé. Ah, et même du Real Madrid, si vous voulez.
Voilà, tu vois.
C'est sérieux. Enfin, bref.
Il y a une réalité, les gars, c'est que le Real Madrid est dans le réticule de toute l'Europe. De façon générale,
il y a beaucoup de jaloux en fait, parce que le Real Madrid.
C'est de la jalousie tout simplement. Donc c'est sûr que quand le Real se fait léser de façon manifeste et grossière comme ça, ils vont dire oh, vous vous plaignez de l'arbitrage, mais il y a un peu de sérieux. Je ne considère même pas, tu vois, ces propos là et ces arguments. Je balaye. Pour moi, c'est ça n'a aucun sens.
Et comme voilà, donc on a fait notre petite séquence dessus, on va pas s'éterniser dessus parce que bon, c'est les conséquences arriveront, j'allais dire peut-être sanctionner les décisions qui ont été prises sur cette rencontre. Bellingham a pris un carton rouge.
Dis-moi, je pense qu'ils vont l'enlever. C'est ça que je comprends pas, c'est que le rouge de Bellingham, il est exagéré, non?
C'est du zèle, mais encore une fois, mais bon.
Parce qu'il arrive, oui, vers lui, il lui dit, ouais, it's a fucking goal, mais enfin.
Il y a la manière de comment tu le dis, s'il l'a dit, genre vénère, etc. Moi, ça, la rigueur, c'est.
Il arrive de manière.
Les gars, deux matchs pour ça. C'est raison.
Non. Déjà, faut voir s'il le prend réellement son rouge, parce que apparemment, il va être mis de côté pendant un certain temps Gilles Manzano et que du coup et Gilles Manzano il va être mis de côté et du coup s'il est mis de côté c'est une preuve pour dire en gros que la colère de Jude Bellingham était compréhensible, donc à voir si vraiment c'est maintenu.
Ah oui, non, clairement.
Ouais, voilà, donc voilà, probablement c'est pas maintenu, donc il est logique que Bellingham ne se mange pas de rouge sur ça.
Non, en fait,
il y a des joueurs, tu vois, genre je suis retombé sur une scène où Declan Rice, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais, Rice, ouais.
Ouais, et il sortait d'un match Angleterre contre je ne sais quelle nation. Non, excusez-moi, il était avec West Ham, autant pour moi. Et justement, c'est.
C'était en C4.
Comment ?
C'était en C4 l'année dernière.
Peut-être, ouais, peut-être. Et Manzano, et il lui dit, ouais, il lui dit des trucs beaucoup plus graves que
ce. Oui, mais il lui dit dans les couloirs.
Il lui dit, ouais, corruption, je sais pas quoi. T'es mauvais, tu vois, ça c'est une attaque directe et envers l'arbitre. Et pourtant, il ne se mange pas de rouge à ce moment-là. Il pourrait. Pourquoi
il
pourrait?
Mais il est dans les couloirs du vestiaire, il est plus sur le terrain.
Il lui dit en face.
Oui, mais dans les couloirs du vestiaire, plus sur le terrain. Et je suis pas sûr que t'aies le droit d'expulser.
S'il y a bagarre dans les vestiaires, c'est possible. Hein.
Non, moi, toutes les bagarres qu'il y a eu, il n'y a jamais eu d'expulsion. Non. Il y a des bagarres Real Juve, 2018, quand on marque le pénalty à la fin là.
Mm-hmm.
Grosse bagarre dans le vestiaire, il n'y a rien eu. Ils ont bloqué les images. C'est jusqu'en interne. Il y a des bagarres dans le vestiaire, ça ne suscitait pas. Hein. À part si vraiment il y a les caméras de Canal Plus avec Brandao, quoi. Mais...
Ah, le coup de tête. Oh. Ouais.
Mais si c'est genre en off, une bagarre de, entre équipes dans le vestiaire, c'est le nombre de bagarres entre équipes dans les vestiaires, si vous saviez.
Ah non, bien sûr. Mais parenthèse, le coup de tête de Brandao sur Thiago Motta, quelle grâce.
le fameux Brandao.
Oui, Johan, lui. Ouais. Lui. Voilà. C'est bien lui. Mais j'allais dire, comme.
Le carton rouge, je peux le comprendre. Moi, en vrai, le carton rouge, je peux le comprendre si la manière, elle est mauvaise. Par contre, je peux comprendre qu'on lui enlève. En fait, sur le moment, je peux comprendre le carton rouge parce que en tant que joueur, t'as pas à réagir comme ça, même si on te vole, je pense.
Oui, parce qu'il a un comportement.
Voilà. Oui. Maintenant, je peux comprendre que après, une fois que tout le monde est redescendu, on lui enlève parce qu'on comprend que en fait, c'était sous le coup de la colère et que l'autre, il a fait une dinguerie. C'est ça, en fait.
Mais du coup, tu le mets pas.
Du coup, je le mets pas. Mais après coup, une fois que tout est redescendu, qu'on s'est rendu compte que Gilles Manzoni a fait une dinguerie et que on dit que, effectivement. La réaction de Jude Bellingham à ce moment-là, elle est assez compréhensible parce qu'en fait, c'est une dinguerie. Mais sur le moment, moi, je te parle entre les deux hommes, l'arbitre, lui, il pense qu'il n'a pas fait une dinguerie. Donc en fait, il lui met le carton rouge parce qu'il se sent agressé. Donc je comprends qu'ils sortent le rouge. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais après coup, je comprends aussi qu'on l'enlève.
Il y a des joueurs, ils insultent les arbitres devant eux. En fait, j'arrive jamais à comprendre ou à saisir la règle vis-à-vis de ça.
Non, mais enfin, parce que toi,
le gars, tu parles... est dans un bon mood, ben, il te le met pas.
Non, mais Michel, toi, tu parles des joueurs de Blaugrana, toi. C'est différent, c'est autre chose encore. Ça, c'est une autre règle. Ça, c'est... Toi, tu parles de Luis Suarez, tu parles de Neymar, tu parles de tout
mais
ça.
Mais il y a eu des dingueries avec ces joueurs-là, justement.
Non, moi, ça m'intéresse pas, messieurs. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est qu'on parle du classement. Effectivement, donc, j'allais dire, le bon gagnant de la journée, c'est le Real Madrid, malgré tout. Ah, puisque justement, donc, il prend un point supplémentaire sur Gérone et maintient l'écart avec Barcelone. 7-8 points avant le match retour contre Leipzig en Ligue des Champions. Ben, j'allais dire, la justice de Dieu, il y en a. Logiquement.
Ouais, pour le coup, ouais, surtout, ouais, grave, ouais, Dieu existe. Hein. Pour le coup, Dieu existe. En tout cas, il y a un Dieu dans le monde du football. Et il a un maillot blanc.
La justice de Dieu.
Il y en a, bien sûr. Mais c'est de se dire quoi, en fait ? C'est que il y a ceux aussi qui disent qu'il y a un regret par rapport à cette rencontre, parce que le but de Bellingham aurait pu donc creuser un écart de 10 à 11 points dans la course au titre.
Ça aurait pas été mauvais, c'est clair, de creuser l'écart avec nos deux concurrents de la Catalogne. Ça aurait pas été mauvais. Maintenant, on ne sait pas on sait pas comment la saison peut finir, mais j'espère de tout cœur que ce but refusé n'aura pas d'incidence sur la lutte pour le titre, etc. J'espère vraiment, même si on, voilà, si vraiment le Real ne gagne pas le championnat, le Real l'aura voulu vraiment, de ne pas gagner le championnat. Je pense que ce sera ça. Mais voilà, non, mais c'est ça reste quand même un point, on va dire, c'est un point positif, d'autant plus qu'on était mené 2-0, etc. Mais c'est clair que c'est frustrant quand tu vois justement qu'on réalise justement ce retour et qu'on est à un coup de sifflet près de gagner le match et de repartir avec les 3 points et creuser l'écart avec la Catalogne.
Bah, on a une belle petite avance qu'il va falloir s'efforcer de maintenir un maximum.
Et justement, bon, ça c'est là, on va voir, puisqu'il y a un match contre le Celta de Vigo. Dans quelques jours, il y a la Champions League, il y a une place en quart de finale à aller chercher, alors qu'il y a une victoire qui a été difficile quand même en Allemagne, où le Real Madrid aurait pu concéder, on va dire, des buts qu'il n'a pas concédé grâce à Lounine. Est-ce que ce match-là de Mestalla est un avertissement quand même pour ce Real de ne pas faire les cons à domicile ?
Oui.
Oui.
Pour moi, oui. Et il n'y a pas d'autre réponse. Tu peux pas, en fait, entamer un match comme tu l'as fait en première mi-temps, te relâcher ta concentration, surtout face à un terrain qui, on le sait, historiquement est compliqué à jouer. Pour les prochains matchs, on espère voir un autre visage du Real Madrid, beaucoup plus conquérant. Après, les gars, il faut les comprendre, ils jouent beaucoup beaucoup de matchs, il y a de la fatigue là, on a dépassé le milieu de saison, on arrive bientôt vers la dernière ligne droite et il y a aussi cet aspect là à prendre en considération, mais malgré tout, si tu veux devenir champion, va falloir serrer les dents et montrer de meilleures choses, en tout cas sur les prochains matchs.
Est-ce que Pablo, il y a de quoi s'inquiéter comme on a pu l'être quand, par exemple, on a joué contre Schalke il y a de très longues années de cela, notamment contre l'Ajax, contre la Juve, là où il y avait quand même un avantage qui était certain au match aller et sur lequel après on a vu un Real Madrid qui a complètement foiré son coup, notamment contre l'Ajax où c'était le dernier exemple le plus criant.
Bon, faudrait passer totalement à côté du match, surtout que là, il n'y a eu qu'une avance d'un but, donc ils sont obligés de rester concentrés et d'aller chercher un but pour faire le break. Donc, franchement, je serais très surpris si le Real Madrid ne rentre pas dans son match et se fait surprendre par Leipzig, personnellement. Et je pense que Leipzig est une très belle équipe, hein, mais je pense qu'il y a aussi la pression du Bernabeu, etc., la Ligue des Champions, tout ça. Et, je pense pas quand même.
La clé, je pense, sera l'entame de match. Hein. La clé, aussi. De match. Si si on débute, si on démarre le match tambour battant, c'est, je pense qu'on a, on aura de fortes chances de passer. Mais il faut absolument ne pas laisser comment dire, le moindre espoir en fait à Leipzig de pouvoir revenir au score. Ça, c'est vraiment la chose qu'il va falloir faire.
Mais parce que là, c'est une équipe quand même qui, on va dire, est dans la bonne configuration pour pouvoir surprendre le Real dans le
C'est
style
ça.
de jeu. Et même avec les joueurs qu'il a, là, j'ai vu le match de Leipzig contre Bochum où ils se sont imposés 4 buts à 1.
T'as vraiment vu le match ou...
Non, non, si, j'ai vraiment vu le match.
T'es un
J'avais que
fou,
ça à
toi.
faire. Hein.
Toi, t'es un fou, toi.
Ah, mais j'allais dire, j'aime le foot, Johan. C'est pour ça que l'arbitrage, ça me casse les couilles.
Même pas.
Non, non, en fait, quand je dis ça, en fait, je l'ai étudié parce que je me dis, des joueurs comme Openda, comme ils ont joué, là, par exemple, à l'Etihad Stadium, où ils ont fait une première mi-temps, où ils ont stupéfait le Manchester City avant de s'incliner. Si ils refont leur première mi-temps en étant avertis de ce qu'ils avaient déjà pu faire contre City sur la deuxième, le Real Madrid peut sortir.
Non, mais d'où le fait que j'ai dit, c'est vraiment l'entame de match qui fera la différence. Hein. C'est vraiment ça, parce que si vraiment on rentre pas dans le match le plus rapidement possible et qu'on leur met pas une pression, une grosse, grosse, grosse pression d'entrée, on ne pourra que se mettre en difficulté. Et d'autant plus qu'ils ont des joueurs qui sont capables justement d'enchaîner les courses à haute intensité. Hein. C'est vraiment ça la marque de fabrique de Leipzig depuis pas mal d'années. Donc non, non, non. Pour moi, c'est vraiment indispensable et impératif justement qu'on fasse une entame de match de qualité. Parce que offensivement, ils ont des bons joueurs, que ce soit Openda, que ce soit Sheshko, que ce soit Simons aussi. Voilà, ce sont des joueurs qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté. Donc, non, ne pas leur laisser le moindre espoir de pouvoir revenir. Ça, c'est vraiment très, très, très important à ce niveau-là. Et j'espère que Carlo Ancelotti va insister sur ce point.
En plus, là, j'ai vu les mains carrées là de Goulachi. Non, on peut pas ne pas,
Pas c'était.
on peut pas accepter justement que le Real puisse passer au travers. Quand tu vois ça, même si voilà, y a des très bons joueurs, il y a aussi la légende Youssouf Poulsen.
Sauf pour le scène, bien sûr.
Mais je sais pas s'il va. Non, je pense pas qu'il va être aligné d'entrée.
Il est
Il est plus
remplaçant.
remplaçant, hein. Il est plus remplaçant, mais sauf pour le scène.
Il est
Ah, ces
puissant.
derniers temps, ouais.
Ouais.
Moi, les gars, moi, par contre, je suis méfiant par rapport au match de demain.
Bien sûr, il faut se méfier.
Ouais, de mercredi,
Mercredi,
ouais,
non?
tout à fait. Ouais, mercredi, oui, demain, tout à
Je
fait.
dis pas, ouais, on va passer easy, tranquille, sans problème, quoi. Ils vont essayer de nous titiller, cette équipe de Leipzig. Après, oui, on est au Bernabéu et tout, mais attention, quand même. Voilà.
Ah, mais bon, non, je pense qu'on aura l'occasion de revenir mercredi soir, comme chaque soir d'Europe en phase d'élimination directe sur la rencontre. Hein, donc on aura l'occasion de débriefer un petit peu tout ça. Je sais que je crois que c'est on appelle le journal du Real qui fait des spaces d'avant-match. Ah,
Non.
c'est bien ça,
Non,
Pablo, hein?
non, 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 pas du tout.
Ah bon? C'est pas
C'est
Abdou qui en organise
bah,
ou
de temps à autre, mais
hein?
pas d'avant-match.
D'avant-match ou même à la. Je sais plus parce que j'avais participé à un, j'avais détesté en plus l'expérience.
Non, 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 ce qu'on fait parfois, c'est des spaces par-ci par-là, mais genre rien à voir avec.
Mais rien à voir avec la Coupe d'Europe?
Ça nous est arrivé d'en faire avec la Coupe d'Europe, mais genre quand c'est des gros matchs.
Ah,
Genre,
ben. Ah,
genre
donc.
la demi-finale contre City,
Ah, là,
en
on n'y est pas
finale.
encore, c'est ça?
Oh, la Leipzig, c'est un vieux match, les gars.
C'est pas bien, hein, Pablo, parce
Oh,
qu'on
mais,
va
mais
nous
faut,
attraper
faut.
si on perd.
Non, mais bah, si on perd, on perd. C'est comme ça, c'est le football. Mais il faut dire les termes. Si on perd contre Leipzig, moi, j'arrête de regarder le foot. Bah, et j'ai tout le respect pour Leipzig, pour Openda, pour tous ces mecs-là. Je les adore. Hein, Dani Olmo. Mais si
Bien
on perd
sûr, quand
contre
même, pour le
Leipzig, c'est
moment.
la honte, les gars. On est le Real, hein, on n'est pas le Barça. Hein.
Sur ces.
C'est dur, Pablo, quand même. C'est
Mais non,
dur,
mais
moi.
figure-toi.
Mais non,
Gros,
je comprends,
on est à Madrid,
je
on
comprends ce
est
que tu veux
Barça.
dire. Je comprends ce
Ça...
que tu veux dire, mais une fois de plus, comme j'ai dit, il faut pas sous-estimer quand même cette belle équipe. C'est vraiment une belle équipe.
Ils ont des
Il nous a pas mal
super
mis en
joueurs.
difficulté, notamment au match aller, donc je
Ils
pense
ont
qu'il faut pas
ils ont des
lâcher.
super joueurs. Ils ont des super joueurs. C'est un très beau collectif. Le coach, il est rose. Il est très bon. Tout ce que tu veux. Mais on n'est pas le
Oui,
Real
on ne
Madrid
doit
pour
pas
rien.
perdre, ça c'est sûr. On ne doit pas
Je suis
perdre, ça c'est
désolé.
sûr. Ah oui, en tout cas, dans l'histoire de cette saison, effectivement.
Moi,
Allez,
j'accepterai la, dé moi, j'accepterai la défaite cette année contre l'Inter, contre
non,
City, contre ces équipes-là, mais pas contre
même
les
l'Inter.
Leipzig. L'Inter, ça joue au foot, les mecs. Vous ne pouvez pas. Attends, ça joue.
Ah, non, non, l'Inter, ça joue. L'Inter, ça joue. Mais
ah, l'Inter joue en Italie.
Voilà.
Et alors
ça change beaucoup de choses.
Ah ouais, frère. L'Inter, Frosinone, tout ça.
Je sais que Pablo aime l'Inter, mais.
Moi, en Italie, j'ai une préférence pour l'Inter. Entre les trois, j'ai une préférence. Ah. Ouais, moi, en Italie, mais de malade. Entre le Milan et la Juve et l'Inter. Moi, je suis plus AS Roma. Hein.
Bon, on va dire, au niveau du cœur, moi, c'est Parme, mais au niveau de l'esprit, c'est la Juve, moi, en Italie.
Moi, au niveau du cœur, entre guillemets, parce que c'est pas non plus. Mais moi, c'est l'AS Roma, parce que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, l'AS Roma, avec Totti, Cassano, tout ça, Montella, tout ça. Mm-hmm. Mais au niveau de l'état d'esprit, même du club et tout, moi, c'est l'Inter. J'adore l'Inter. Je kiffe l'Inter.
Oh!
Je vous le dis, j'adore l'Inter. Depuis PES6, Adriano, tout ça. Là.
Ah, voilà, ah,
voilà. Voilà.
On comprend mieux.
Une explication scientifiquement logique. Voilà.
Une explication qui est un peu plus honnête.
C'est là où il m'a matrixé. Bon, et après, j'avoue, il y a la période Mourinho qui m'a vraiment fait kiffer. Ouais, la période Mourinho, le 3-1 à Giuseppe Meazza. Je suis pour l'Inter, c'est bon. C'est mon club.
Et toi, en Italie, c'est quoi ton club préféré?
Moi, c'est plutôt AC Milan, les gars.
Ah oui, même voilà. Si
historiquement.
Vous avez tout à fait raison.
AC Milan, c'est un ennemi du Real.
Vraiment, en fait, l'Inter, la façon dont s'est construit le club et tout, historiquement, c'est bien plus, je dirais, humainement valorisant que le cas de l'AC Milan, mais. Là, c'est Milan, quand même, il y a une vibe qui est incroyable.
Justement, parce que.
Il y a eu des légendes incroyables.
Là, c'est Milan, c'est inspiré. Il y a une atmosphère incroyable. C'est ça, là, c'est Milan, c'est inspiré du Real Madrid pour faire la grandeur du club qu'il est devenu dans les 35 dernières années. C'est pour ça qu'il y a quand même une admiration aussi dans la façon dont ils ont, on va dire, eu le côté prestige. En tout cas.
Toi qui as grandi dans
moi, côté prestige, c'est après le Real. Genre pour moi,
c'est Bayern et Milan.
Moi, je dirais Milan, Bayern.
En termes de prestige. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas trop ça, là, c'est Milan. Mais...
respectez la Juve, frère.
Ah, celle qui perd.
La Juve, c'est des tricheurs, gros.
Le club qui perd tout le temps en finale, là. Laisse ça.
C'est rien. Le plus important, c'est d'aller en finale.
Ouais, arrête de parler.
Le plus important, c'est d'y participer, ouais.
Gilles, un truc. Non,
vous respectez pas la Juve, les gars.
Toi qui as grandi dans les années 2000, Gilles, t'as pas été traumatisé par l'AC Milan? Moi, j'étais traumatisé par l'AC Milan.
Vas-y, l'AC Milan, il gagne rien, les frères,
Il nous éclatait avec Shevchenko, Inzaghi, tout ça.
On a déjà perdu contre eux.
Soulevé par le Milan.
Non, pas.
Oui, en 2003.
En 2003, on peut mettre 1-0, c'est tout, ça va. 1-0, après le match retour, c'est vrai qu'ils mettent une équipe B, ils sont déjà qualifiés et on gagne 3-1.
Qui rentre sur le terrain, Redondo.
Oui, applaudissements et tout, etc. Moi, l'AC Milan, on va dire que dans les confrontations directes, on n'a pas beaucoup joué contre eux. On va dire que c'est les grands frères.
C'est pas manger un coup franc de Pirlo contre l'AC Milan.
Non, tu parles de 2009-2010, oui.
Je parlais de 2003 à la base. Moi, j'ai des souvenirs de Shevchenko, Inzaghi, à San Siro.
Oui, oui. 1-0, 2003, c'est Shevchenko.
Même il est hors-jeu.
La passe de Rui Costa, là.
Il est hors-jeu ou pas?
Je sais pas s'il est hors-jeu.
Il est hors-jeu.
N'oublions pas que le Milan AC, c'est une équipe qui est professionnel des remontadas, tu vois.
Oui, c'est ça. En leur défaveur.
Exactement.
Deportivo La Corogne, moi, j'ai...
La Corogne, ouais, bien sûr.
En tant que Galicien, effectivement, Pablo...
Je suis comme un fou, moi. Le 4-1 à l'aller et le 4-0 au retour, incroyable.
Magnifique. Ah là là, le football de notre enfance. Bon,
parce que je suis Galicien, mais j'ai un cœur aussi basque. Demain, il y aura une belle remontada aussi.
Ah.
La Real et Arena, anciennement à Noeta.
Que Dieu t'entende.
Oh là là, que Dieu t'entende. Oh,
que Dieu t'entende, voilà.
Ce genre de phrase. Les gars, dernière chose, avant qu'on clôture, dernière chose, je parlais avec un pote du taf aujourd'hui, j'ai dit, pour moi, demain, soit le PSG se fait peur, soit le PSG sort. Donc je pense que ça va vraiment être ça.
Ah ben...
C'est chaud s'ils sortent, c'est un truc de ouf.
Bon,
on va couper. C'est mieux on coupe, non?
C'est mieux qu'on coupe, non? Non, mais en tout cas, voilà, le Real Madrid est toujours en tête de la Liga. Va jouer, on va dire, son 8e de finale de Ligue des Champions. Et toujours dans le coup, en plus au moment de la trêve internationale. Il reste un petit effort à faire. Mais bon, on se souviendra, on va dire, dans le film de la saison et dans le film aussi du football espagnol de ce match. Non, messieurs, merci. On aura l'occasion de voir ce qui va se passer dans la prochaine semaine, comme d'habitude. Et ben voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit, comme d'habitude, à la Madrid.
À la Madrid.